9h27, notre invité ce matin, Patrice Godin, nous présente son nouveau livre. C'est pas un roman, on le précise, ça s'appelle « Des carnets minimalistes, toutes les vies possibles ». Patrice Godin, bonjour.
Bonjour, Paul.
Oui, c'est pas un roman, mais non. C'est comme si l'intention de départ était d'écrire un roman, puis t'as tourné en rond, puis t'as regardé autour, puis là, on est allé ailleurs.
C'est ça. Ben, à l'automne, j'avais entrepris l'écriture d'un roman qui s'appelle « La fille du Nord », et c'était vraiment quelque chose qui m'habitait fortement, mais en même temps, c'est basé sur une île norvégienne qui existe. J'avais comme vraiment envie d'aller écrire sur le terrain, d'aller dans cet univers-là pour vraiment m'imprégner de cette histoire-là. Puis naturellement, ben c'est impossible. Mmh. Alors, j'essayais d'inventer, comme je l'ai fait un peu dans mes romans. J'ai inventé un petit village sur le bord de la mer dans Boxer la nuit, dans Sauvage Baby. Le lac existe pas vraiment où Sam et Alexia habitent. Mais là, j'étais comme pas capable d'inventer ça. J'avais vraiment envie d'être là, sur le terrain. Et je me suis mis à me promener dans ma tête, dans mes pensées. Comme je me lève toujours le matin à 4 heures pour écrire, ben là, j'avais du temps devant moi. Et l'espèce de temps d'arrêt qu'on a eu... l'automne, l'hiver dernier, ben c'était propice à ça de voir on est arrêté, mais le temps file, la vie continue, puis qu'est-ce qu'on échappe?
Et t'écris beaucoup.
Oui.
Mais vraiment beaucoup, là.
Ben écoute, depuis 2015, c'est vraiment avec le jeu, l'entraînement, la famille, c'est l'écriture qui prend beaucoup de place dans ma vie, oui.
Puis à quel moment t'as senti que tu bifurquais vers quelque chose de beaucoup plus personnel?
Je dirais à partir de janvier, février. En fait, je luttais un peu contre ça parce que j'aime pas tant parler de moi. Je suis pas quelqu'un qui a fait des masses d'entrevues avant. Et là, j'avais l'impression... Bon, territoire inconnu, je parlais un peu de moi par rapport à la course. Là, tout d'un coup, je me suis comme retrouvé dans une zone qui me déstabilisait un peu. Mais en même temps, c'est quand écrire, c'est ça. C'est ce qui vient... de l'intérieur, puis faut que tu laisses...
Pardon, excusez-moi,
c'est... Oh, le Siri qui...
Oui, faut pas l'appeler trop souvent. Alors, tu disais...
Ben, c'est ça, j'étais un peu déstabilisé, mais en même temps, c'est ça l'écriture, c'est de laisser aller ce qui remonte à la surface, puis dans un roman, ben, faut écouter ça aussi, puis là, ben, dans ce genre de récit-là, je pense que j'ai pas eu le choix d'aller là-dedans, de me dire, OK, vas-y, va voir... Puis j'écrivais un peu, je savais pas trop ce que ça allait donner en bout de ligne. J'ai retrouvé dans une boîte des poèmes que j'ai écrits probablement très maladroitement dans les années 90, mais je les lisais puis je faisais, mon Dieu, ça me touchait encore, c'est ce que j'avais écrit là. Puis je trouvais que ça avait un rapport avec ce que je disais, donc je les ai un peu intégrés dans tout ça, dans cet ensemble-là. Mon goût pour la poésie que j'ai mis un peu de côté parce que la vie, puis plein d'autres choses, là, mais...
Mais c'est comme, puis là, c'est le lecteur qui va parler, là, c'est comme si tu nous amènes dans des moments importants de ta vie, des moments qui ont été des moments charnières, oui. Je dirais. Bon, toute la question de l'adoption,
oui.
La quête pour trouver ta mère, l'espèce d'obstacle, parce que les outils juridiques n'étaient pas ce qu'ils étaient,
non, c'est ça,
sont aujourd'hui. Puis après ça, donc, la retrouver, puis tous les questionnements... C'est comme tu nous ouvres la porte. Puis t'es pas quelqu'un comme la confidence facile. Là.
Non.
Mais on comprend que tout ce qui entoure l'adoption, ça a été déterminant dans ta vie du début à la fin. Là. C'est-à-dire auprès de tes enfants, par exemple. Je dis pas que ça a été, mais ça détermine un bon nombre de choses.
Ben ça change beaucoup de choses. Moi là, j'ai mes parents, mon père, ma mère, qui sont toujours vivants, qui m'ont adopté à la naissance. C'est mes parents. Tu sais, ça changera jamais. Puis j'ai eu une vie. Formidable, une enfance extraordinaire. J'ai une vie présentement, je peux pas me plaindre de rien. Tu sais, j'ai ma femme, mon amoureuse, j'ai mes trois filles, j'ai une carrière qui fonctionne. Mais pendant des années, même tout petit, je sentais une douleur à l'intérieur que je pouvais pas m'expliquer, puis qui a été étrangement, puis je suis pas quelqu'un d'ésotérique non plus, mais quand j'ai parlé avec ma mère biologique, avec Marie, que je nomme Marie-Hélène dans le livre, c'est son nom, et qu'elle m'a dit, je t'ai jamais oublié, il n'y a pas une journée d'anniversaire que j'ai pas pensé à toi. Ben, on dirait qu'à ce moment, moi, c'est ça que j'avais peur, c'est que cette femme-là m'ait carrément abandonné parce que je suis vraiment un accident, là, on va se le dire, c'est vraiment un accident qui est arrivé dans sa vie. Mais quand elle m'a dit, je t'ai jamais oublié, ben, ce trou-là que je sentais, il s'est refermé. Puis ça, je trouve ça fascinant, étrange, formidable. Il y a plein de qualificatifs, mais ça m'a apaisé, vraiment. Puis déjà, depuis quelques années, je travaille à justement apaiser cette espèce de combat-là avec moi-même par rapport, bon, à l'alcool. J'ai arrêté de boire le 1er novembre, puis j'ai parlé à ma mère quelques jours plus tard pour apprendre que mon grand-père paternel est mort d'alcoolisme à 52 ans, qu'un de mes oncles, le frère de ma mère, lui, qui était policier au Connecticut, qui a travaillé dans l'infiltration, à un moment donné, il s'est fait ramasser par le crime organisé, puis il est parti en Arizona où il a bu jusqu'à temps qu'il s'éteigne, tu sais. Fait que l'alcoolisme était là.
T'en parles de tes problèmes d'alcool, puis de ce que ça a eu comme effet pour toi, puis la décision d'arrêter.
Oui. D'arrêter, puis en même temps, je me laisse, parce que je suis capable d'arrêter. J'ai souvent, quand j'écris, j'arrête tout le temps. J'ai arrêté un mois, deux mois, trois mois. J'ai des périodes. Moi, le problème, c'est surtout si je commence, puis que je suis dans un environnement où il n'y a pas de limite, j'en ai pas. C'est la même affaire que la course. Et si j'ai juste 10 km, une heure pour courir, je vais faire 10 km. Si tu me donnes... vas-y, je vais partir, tu sais, je vais y aller longtemps. Mais l'alcool, c'est un peu ça le problème, puis la cigarette, c'était la même chose, tu sais, c'était... Puis là, l'alcool, ça devenait vraiment un problème, parce que même après un vendredi soir tranquille à la maison avec Nathalie, je prends deux bières, après un verre de vin, ou je vais prendre... Je me levais le lendemain, puis j'étais pas bien, je faisais comme de... Je me sentais déprimé, l'alcool était rendu que ça m'étouffait, même... en petite quantité, puis à un moment donné, tu fais « OK, qu'est-ce... tu sais, vas-tu à un moment donné faire une bêtise ou j'arrête, puis tout va bien, là. » Fait que, arrête, puis vois ce que ça va donner. Puis je me laisse en même temps, on dirait que je me donne la permission de me dire, ben tu sais, des fois, j'en parle avec Nat, puis je fais « Peut-être que je prendrai un verre de vin, mais en même temps, je pense pas que je vais en prendre un. » Mais puis, finalement, j'en prends pas, parce que quand j'arrive là, ça fait « Hey! » Là, ça va faire 11
mais quand
mois.
Tu vois les autres, mettons, ta blonde qui prend un verre de vin, ça te dérange? Ça...
J'avais peur à ça avant, mais tu vois, cet été, on est allé, on fait chaque... pendant une année, on a un groupe d'amis, puis on a vraiment nos occasions spéciales où on se voit tout le monde ensemble. Puis chez mes amis qui sont presque mes voisins, c'est au mois de juillet, la fête d'une de leurs filles, ben on est comme 4-5 familles, on se retrouve ensemble. Puis là, on avait le droit, ça fait comme un an qu'on se voit pas vraiment. Puis là, ben on avait le droit, on était là. Puis naturellement, d'habitude, ben on boit de la bière. Puis mes chums, moi, j'aimais beaucoup l'IPA. Ça fait que mes chums, hey, Pat, goûte à ça. Puis on se faisait goûter des affaires. Mais moi, je suis arrivé avec mes bières sans alcool, mon gin sans alcool. Puis j'ai passé une super belle journée. Puis il n'y a pas personne là-dedans qui se dévisse la tête puis qui est saoul. Puis il n'y a personne qui finissait. Mais mes chums, puis mes amis filles, puis ma blonde, ils prenaient un verre, puis... Puis moi, je prenais ma bière sans alcool, puis j'étais super bien, puis c'était bien cool. Puis finalement, ben je trouve ça bien correct, puis j'ai pas tant ce désir-là. C'est sûr qu'au restaurant, une bonne bouffe, un bon verre de vin rouge, ça reste, t'sais. Mais en même temps, je me dis, le sacrifice est pas tellement énorme pour être bien à l'intérieur.
Notre invité, Patrice Godin, on parle de son livre « Toutes les vies possibles ». Tu racontes, on sait tous que tu fais de l'entraînement, puis et que tu as négligé une blessure.
Oui. Au tendon d'Achille.
Ouais, puis que tu n'aurais pas dû le faire, puis que ça a hypothéqué finalement ta capacité de courir.
Bien, dans la dernière année, ça a été plus difficile. La blessure, ça va, ça vient. Là, elle semblait être sur la bonne voie. Puis à un moment donné, je suis allé courir en sentier, puis la chaussure, je sais pas où c'était. Là, ça a comme parti du mauvais bord. Fait que là, depuis vraiment un an, je traîne ça. Là, depuis quelques... Là, je suis en tournage intensif. Là, on finit cet après-midi. Je finis mon tournage. J'ai fait à peu près 30 jours sur une production. Puis ça m'a permis de lever la patte là-dessus aussi, de courir moins, d'aller au gym un peu, de reprendre mes habitudes, de compenser autrement. Puis on dirait que la blessure, ça se résorbe. Là, je vais aller passer une échographie. Mais effectivement, une échographie du tendon puis du pied pour voir qu'est-ce qui est brisé, qu'est-ce qui fonctionne pas, là. Parce que j'ai essayé vraiment toutes les autres alternatives. Et c'est ça. Là, ça m'empêchait vraiment d'avoir... En fait, il n'y avait pas tant de compétition qui était accessible, mais le plaisir que je ressens à courir, je ne l'ai pas parce que j'ai tout
le temps... Mais c'est ça que j'allais dire. Il y a deux éléments dans le livre qui ressortent très fort à mon point de vue. on comprend ta passion des livres, mais là, oui. là, on parle de quelqu'un qui a des boîtes et des boîtes et des boîtes de livres, qui a été marqué par des auteurs, oui. qui connaît des auteurs par cœur. C'est comme un univers en soi. Et la course, oui, je comprends le côté physique,
oui.
mais ça te permet d'entrer dans des univers. Puis de, tu sais, je sais pas à quoi tu penses quand tu cours, mais tu décris dans le livre, à un moment donné, je pense au parc du Mont-Saint-Bruno.
Oui.
Puis il y avait un peu de neige, puis bon... C'est comme si c'était un environnement, une espèce de décor que tu te créais, puis que la course est le prétexte aussi pour plonger dans ce genre de situation.
Bien, la course, c'est que ça me permet d'être... Premièrement, ça a été un besoin vraiment, un manque d'aventure dans ma vie à un moment donné. Tu sais, quand j'étais jeune, je parle du cinéma aussi, les films qui m'allumaient, c'était des films d'action, puis tout ça, puis j'avais un peu l'impression naïve, petit bonhomme, qu'en devenant acteur, j'allais plonger dans cet univers d'action-là, alors que être acteur, c'est apprendre des lignes puis attendre avant de les dire un peu. Là, tu sais, je simplifie, mais... Donc, j'avais besoin d'aventure, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin d'action. J'étais trop vieux pour me lancer en boxe, j'étais trop... Fait que la course en sentier, ça a été ça. Puis partir longtemps, partir dans le bois, faire une nuit complète dans montagnes cascades dans l'État de Washington, aux États-Unis, en plein milieu de la nuit, t'es tout seul. Bien, pour moi, ça nourrissait l'aventure. Et ça me permet aussi d'être avec moi-même, de réfléchir sur moi, sur ma vie, de... juste de m'améliorer comme être humain, parce qu'on est tellement dans un mode où tout va vite, où tout bouillonne, puis on lit les nouvelles, puis on voit tout ce qui se passe présentement avec la COVID, avec les élections, avec il y a plein d'affaires, puis à un moment donné, on est dans cette espèce de truc-là. Je pense qu'on oublie, on s'empêche d'arrêter, puis de réfléchir, puis de penser juste à nous, à comment on se sent dans tout ça. Puis moi, la course, ça me permet ça me permet de... C'est une forme de méditation aussi. Je médite aussi à la maison le matin en me levant. Mais à long terme, dans la nature, ben c'est ça que ça fait. Là. Ça me permet d'aller à l'intérieur de moi. Puis ça me permet aussi, à un moment donné, de quand j'écris, entre autres, un roman, ben je peux... j'écris pas en courant, mais je joue avec les ficelles de ce qui s'en vient, avec l'intrigue.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Yannick Dubois?
Qu'est-ce qui s'est passé avec Yannick? Écoute, j'ai entendu Luc, c'est en début de semaine. C'est vrai que j'étais super occupé. Moi, ça m'aurait fait... Tu sais, les acteurs, on veut travailler. Hein? Puis moi, District 31, j'ai eu énormément de plaisir à faire ça avec mes camarades. J'avais hâte d'y retourner. Moi, je croyais que j'allais être présent, pas beaucoup, mais un peu à la saison, la sixième saison. Mais c'est vrai que j'avais un horaire très, très, très chargé. Et pour Luc, ben, ça devient un casse-tête de satisfaire tout le monde. Alors, il a pris la décision de me faire disparaître et je l'accepte. C'est comme ça.
Parce que c'était de jumeler l'écriture et tes horaires.
Ben, tu sais, il y a mes horaires à moi, il y a les horaires à la Michel, il y a les ouais. horaires à Sébastien, les horaires à tout le monde. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que d'arriver puis de faire bon ben il est disponible juste le lundi là, le jeudi là, un avant-midi, tu sais, je comprends la complexité de la patente. C'est sûr que j'ai trouvé ça dommage de pas revenir ne serait-ce qu'une ou deux scènes, mais bon, regarde, il y a 120 épisodes à écrire là, il y a d'autres choses à faire.
Mais là, il est mort, fait que on peut plus.
Ben là, c'est fini là, Yannick, c'est fini, on passe à d'autres choses, mais ça a été vraiment une belle aventure ce personnage là.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci, Paul.
Patrice Godin, donc, Toutes les vies possibles, carnet minimaliste, c'est publié aux éditions Libre Expression. Bougez pas, on vient.